Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un genre de théâtre peut-être un peu trop oublié aujourd'hui, mais qui a eu son importance dans l'histoire du théâtre français. Je veux parler du théâtre de l'absurde. Tout a commencé, si je peux dire, en 1896, avec la première représentation d'une pièce d'Alfred Jarry, Ubu Roi. Alors, Ubu Roi, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a donné naissance à un adjectif, ubuesque. Alors, il faut dire que la pièce commence de façon inhabituelle. Il faut se reporter à l'époque, en 1896. Le premier mot de la pièce, c'est « merdre ». Dre. Inutile de dire que les spectateurs habitués aux spectacles habituels du théâtre ont été pour le moins surpris. Alors, Ubu Roi, c'est une histoire absolument incroyable d'un roi qui décide de faire le grand vide autour de lui. Voici un extrait de cette pièce. Père Ubu, allez, passez les nobles dans la trappe. On empile les nobles dans la trappe. Dépêchez-vous plus vite, je veux faire des lois maintenant. Puis on va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Plusieurs magistrats, nous nous opposons à tout changement. Merde ! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Les magistrats, de quoi vivrons-nous ? Nous sommes pauvres. Vous aurez des amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Les magistrats, horreur, infamie, scandale, indignité. Tous, nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats. Il se débat en vain. « Eh bien, la mère Ubu, que fais-tu, père Ubu ? Qui rendra maintenant la justice ? Tiens, moi ? Tu verras comme ça marchera bien. Mère Ubu, oui, ce sera du propre. Père Ubu, allons, tais-toi, bouffresque. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Financiers, il n'y a rien à changer. » Comment ? Je veux tout changer, moi. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Financiers, pas gênés. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, un troisième pour les mariages et un quatrième pour les décès de 15 francs chacun. Premier financier, mais c'est idiot, père Ubu. Deuxième financier, c'est absurde. Troisième financier, ça n'a ni queue ni tête. Vous vous fichez de moi. Dans la trappe, les financiers. On enfourne les financiers. Mère Ubu, mais enfin, père Ubu, quel droit tu fais ? Tu massacres tout le monde et merde ! Mère Ubu, plus de justice. Plus de finances, père Ubru. Ne crains rien, ma douce enfant, j'irai moi-même de village en village recueillir les impôts. Ça, c'était un extrait de Uburoi. Évoquons à présent un des grands maîtres du théâtre de l'absurde, Eugène Ionesco. Il est né en 1909, il est mort en 1994, il a fait une carrière, ma foi, plus qu'honorable. Il a même fini à l'Académie française. Et sa première pièce, La cantatrice chauve, a été jouée pendant des années et des années dans le même théâtre. La distribution changeait au fil des ans. Mais plutôt que la cantatrice chauve, je vous propose un extrait de La leçon d'Eugène Ionesco. Il y a trois comédiens, le professeur, l'élève et l'assistante, si je peux dire, du professeur. Le professeur. Au lieu de regarder voler les mouches tandis que je donne tout ce mal, vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas Mourat qui me présente au concours du doctorat partiel. Je vais passer, Mourat, il y a longtemps, y compris mon doctorat total. Vous ne comprenez donc pas que je veux votre bien, l'élève. Malodorant, mal élevé. Mais ça n'ira pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. L'élève, je vous écoute. Ah, pourquoi apprendre à distinguer toutes ces différentes langues? Je vous ai dit qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais essayer de vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. L'élève, c'est comme vous voulez. Après tout, Marie. Marie. Oh, elle ne vient pas. Marie. Marie. Voyons, Marie. Il ouvre la porte. Marie. Il sort. On entend sa voix à l'extérieur. Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne venez-vous pas? Quand je vous demande de venir, il faut venir. Il rentre, suivi de Marie. C'est moi qui commande, vous m'entendez? Il montre l'élève. Elle ne comprend rien, celle-là, elle ne comprend pas. La bonne. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur. Gare, à la fin, ça vous mènera loin, ça vous mènera loin, tout ça. Le professeur, je saurai m'arrêter. Attends, la bonne. Ah, on dit toujours, je voudrais bien voir ça. L'élève. J'ai mal aux dents. La bonne, vous voyez, ça commence, c'est le symptôme. Quel symptôme, expliquez-vous? Que voulez-vous dire? L'élève d'une voix molle, oui. Que voulez-vous dire? J'ai mal aux dents. La bonne, le symptôme final. Le grand symptôme. Je vous laisse le soin de deviner, mais sans doute l'avez-vous déjà fait, comment s'achève cette pièce en un acte. Toujours dans la lignée des écrivains du théâtre absurde, voici un extrait d'une pièce de Roland du Billard. Roland du Billard, il est né en 1923, il est mort en 2011. Et il a écrit des petites pièces, les dialogues. Voici l'extrait de ces dialogues, la poche et la main. 1. Tenez votre main droite. Eh bien, elle ressemble bien plus à ma main droite que ma main gauche. 2. C'est pour ça qu'il faut être deux pour se serrer la main. Vos deux mains toutes seules, elles n'auraient jamais l'idée de se serrer la main. Ah, elles ne pourraient pas, regardez, elles ne sont pas ensemble, elles ne rentrent pas l'une dans l'autre.
C'est encore un enseignement, ça. Le bon Dieu, s'il avait voulu nous faire comprendre qu'il faut se serrer la main les uns les autres, il ne s'y serait pas pris autrement. Parce que je ne sais pas si ça vous fait comme moi, mais moi, rien que d'avoir essayé de me donner une poignée de main, eh bien, ça me donne des envies de main droite dans ma main droite. Ah, tenez, voilà la mienne. De bonjour, comment ça va? Ah, pas mal, et vous? De oui. C'est un peu bête de se dire ça comme ça. Ah, c'est un réflexe. Ce doit être comme ça que la vie sociale a pris naissance chez les hommes. Comme ils ne pouvaient pas se serrer la main chacun tout seul dans son coin, ils ont eu l'idée de se serrer la main entre eux, alors fatalement ils se sont dit bonjour, comment ça va? À partir de ce moment-là, ils se sont mis à causer, la glace était rompue. Et ça, ce n'était possible que pour le genre humain, justement, parce qu'il fallait au moins avoir deux mains, ce que n'avaient pas les éléphants, par exemple, qui sont tellement intelligents par ailleurs. Les éléphants. Il y a un farceur qui joue, c'est la trompe. Oui, il ne fallait pas non plus en avoir plus de deux des mains. Parce que regardez les singes qui en ont quatre. Eh bien, rien ne les empêche de se serrer la main droite tout seul avec l'autre main droite, la main droite du pied. Résultat, les singes sont restés des singes et pour la vie sociale, ils lui ont dit adieu. Tandis que nous, on n'est pas restés des singes vu qu'on avait deux pieds. Comment on avait des pieds, mais mon cher, on les a toujours. Jetez un coup d'œil par terre, ils sont là. Eh oui, solides au poste, dans leurs chaussures, oui. Sacrifiés dans un sens, car ce ne doit pas être bien drôle, l'existence du pied. Le soulier qu'on confort, on a beau faire, ça ne vaut pas le camp, ça ne vaut pas la poche. Pauvre pied, qu'on ne met jamais dans ses poches, qui ne se sert jamais entre eux, comme ils sont loin de nous. Et pour poursuivre, avant d'aborder Raymond Devos, je vous propose une pause musicale. C'est sans doute un des plus grands comédiens qui ait arpenté les scènes françaises de son vivant. Il est né en 1922, il est mort en 2006. Et voici un de ses monologues fabuleux dont il avait le secret. Parler pour ne rien dire. C'est extrait du recueil « Sans dessus-dessous » paru en 1976. Mesdames et messieurs,
Je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez... S'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire, évidemment. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien, non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque, mais me direz-vous, si on n'a rien à dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. De rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est que l'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien. Trois multiplié par trois égale neuf. Cela fait rien de neuf. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Bon, parlons d'autre chose. Parlons de la situation, tenez, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions, nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui, oui. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Quelque part, je ne peux m'empêcher de penser que ce texte peut avoir des résonances actuelles. Après Raymond DeVos, je vous propose un texte de Jean-Michel Ribes, extrait de son théâtre Sans animaux. Jean-Michel Ribes est né en 1946, le théâtre Sans animaux apparu en 2001. Le père, Monique ? La fille, oui papa. Le père baisse son journal et regarde sa fille. Je peux savoir pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle Monique ? La fille, pardon ? Tu as parfaitement entendu ma question. La fille, je ne l'ai pas comprise, papa. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi ? Tu veux rire, papa? Oh, pas du tout, ma petite fille, mais alors, pas du tout. La fille, mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique? Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? La fille, oui, papa, depuis 18 ans.
Depuis 18 ans. Et tu as quel âge ?
La fille de 18 ans, justement.
Justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père simplement, ton père au cas où tu l'aurais oublié.
Et je peux savoir qui t'a appelé Monique, la fille ?
Toi, je suppose.
Moi ?
Et quand, s'il te plaît, la fille ?
À ma naissance, probablement.
Le père, moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chair. Monique ?
Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif avec les voisins. Je mange la blanquette de veau en cachette, et c'est vrai. Je n'ai pas une passion pour le théâtre, mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense, non.
Ma chérie, non, ton papa n'est pas capable de ça.
La fille, alors, c'est maman, le père ta mère.
Bon, quand ce n'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non?
Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes, là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelé Monique ?
La fille, mais enfin, papa, qu'est-ce qui te prend ?
Le père.
Parfait.
On va en avoir le net. Il prend le téléphone et compose un numéro.
Allô ? Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange. J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille.
Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique.
Oui. Tu as bien entendu, Monique.
Moi aussi, à sa fille. Ça l'étonne beaucoup.
D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom à sa naissance ?
Oui, toi.
Tu es au courant de cette histoire ?
Bien sûr que je te crois, mais elle est butée, tu la connais, je t'en prie.
Vas-y.
Elle a un monde fou dans le magasin.
La fille, qu'est-ce qu'elle a dit ?
Elle m'a demandé si je plaisantais. Et pour terminer ce bref panorama du théâtre de l'absurde, je vous propose un extrait d'une pièce de Jean Tardieu. Jean Tardieu, 1905-1995. Et il s'agit de La mort et le médecin. À la maison, le matin.
Madame,
où vas-tu, monsieur ?
Au bureau, madame.
Encore ? Tu es déjà allé hier ?
Non. Hier, je n'ai pas eu le temps. J'étais occupé à être malade.
Comment te sens-tu aujourd'hui ?
Monsieur, comme tu voudras.
Madame, je veux que tu sois malade.
Bien sûr, je serai malade ce soir, mais maintenant, il faut que je sorte.
Madame, prends garde aux rues barrées.
Monsieur, elles ne sont pas bien barrées, il suffit de faire le tour.
Tu n'emportes pas ton chien ?
Monsieur, je l'ai dans ma poche.
Et les enfants ?
Ils sont au garage pour la réparation.
Allez, au revoir, je suis en retard.
Madame, tiens, voilà une autre montre.
Parfait, elle est en avance, je l'emporte. Adieu, à ce soir.
Et nous retrouvons le monsieur au métro.
Au métro.
Madame, je voudrais un ticket.
Madame, monsieur, malheureusement, je n'ai plus que de vieux tickets.
Monsieur, ça ne fait rien, donne-moi un, c'est combien ?
1 000 francs.
Ce n'est pas cher. Voilà 1 000 francs.
Merci.
Mais je ne sais pas quand le métro partira.
Ah ?
Il est arrêté ?
Oui.
Pourquoi ?
À cause de la pluie.
Mais il fait pourtant un beau soleil. Ça ne fait rien, c'est le soleil des jours de pluie. Ah, je comprends. Alors je vais attendre. On va faire la conversation tous les deux. Oh, c'est ça, vous aimez parler cuisine? Oh, beaucoup, j'ai tout le temps faim. Moi, la dame, moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la crème au vinaigre? Très bon, j'en mange à chaque repas. Avec de la queue de rat. La dame, ah! Quelqu'un vient de passer en disant, jour sans métro, jour sans métro. Oh, c'est vrai, la dame, j'oubliais, il n'y a pas de métro aujourd'hui. Monsieur contrarié, oh, c'est ennuyeux. Comment est-ce que je vais faire pour aller à mon bureau? Prenez le métro semblant. Il passe souvent? Toutes les 5 minutes, tenez, en voilà. Bon, je le prends alors. À ce soir. Madame, à ce soir, quelle est votre adresse? Je n'en ai pas. Ça ne fait rien, mais quand même, c'est à gauche. Entendu, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Le soir à la maison. Madame, mon pauvre mari, je t'avais bien dit ce matin que tu serais malade. Tiens, prends ce remède. Monsieur, il est très bon, ton remède. C'est toi qui l'as fait? Madame, oui, avec du vin, un peu de beurre, de la salade cuite et aussi du sable, naturellement. Monsieur, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Maintenant, dors, je m'en vais 5 minutes. Monsieur fait semblant de ronfler. La dame sort. Il se lève, va à sa table et fait semblant d'écrire. Madame, je te croyais malade. Oui, je serai malade quand le docteur arrivera. Alors qu'est-ce que tu fais? J'écris des vers. Encore? Mais ce ne sont pas de vrais vers. Ah bon? Alors viens plutôt jouer avec moi. À quoi? À faire la cuisine. Tu sais bien que tu as invité la dame du métro. C'est vrai, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, une soupe pour commencer. Oui, une soupe, tiens. Voilà, des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Bon, on va les faire cuire. Ça y est, ils sont cuits. Il faut aussi de la viande, j'ai des tickets, tant mieux, tu vas voir. Il n'y a qu'à les poser sur un feu, et voilà, 3 beefsteaks. Madame, tiens, le docteur, recouche-toi vite, c'est vrai, je suis malade. Je vous remercie de m'avoir écouté.